Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis avec Frank.
Oui, salut Nicolas. Ravi de vous revoir et de te revoir aussi en même temps. Hein. C'est vrai que c'est un podcast, mais nous, on a la chance de se voir en vrai en plus. C'est au moins la bonne chose, en tout cas de virtuel, mais de visu. Welcome à tout le monde. J'espère qu'on va essayer de vous rebouger un petit peu les affaires pour aujourd'hui.
Absolument, c'est toujours très agréable. Cette fois-ci, on va aborder Sentinel et sa place dans l'espace de la cyber et dans l'espace du cyber dans l'info nuagique. Je te laisse partir avec ça.
En fait, effectivement, ce qu'on s'était dit tous les deux, et c'est un petit peu ce que je t'avais mentionné sur la suite effectivement logique aussi des trois... Trifeca, hein, si je dis pas de bêtises de comment le prononcer, là, de ce qu'on s'était dit au travers des AzureScape, ChaosDB, Oh My God, c'est de savoir, bon, ok, mais pour se protéger aussi des fails ou des ratés qu'il peut y avoir des cloud providers, puis encore une fois, hein, ce qu'on précise au travers évidemment de Microsoft existe de la même manière sur AWS et aussi de la même manière, peut-être un peu moins sur GCP pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas les mêmes services aussi avancés, mais AWS et Azure ont de toute façon eux aussi leur même problématique et leur même système. Par contre, et c'est là où je voulais en fait en revenir à aujourd'hui pour le côté sécurité cloud, c'est qu'à aujourd'hui, comme on l'avait dit tout au début de reprendre, si vous vous rappelez les premiers podcasts au Polysécure sur la partie cloud en tant que telle, c'est de se dire il faut penser cloud native et il faut penser aussi le côté de on n'est pas sur un animal de compagnie, mais on est sur du cowboy et on gère de l'infrastructure as code et on essaye de pas refaire la même chose. Et notre valeur est sur le code, notre valeur est sur l'automatisation, notre valeur est sur la conception de comment tu vas gérer ton infrastructure, tes policies, ta gouvernance. Et tout ça se démocratise en CI/CD automatiquement. Pas facilement à chaque fois. Attention, hein, c'est pas de la sinécure non plus. On n'est pas là pour faire des vacances top moumoute et que ça marche tout seul. Malheureusement, non. Mais effectivement, ça se fait et ça se fait bien. Puis quand ça se fait et que ça marche, bon, au moins, il n'y a pas d'erreur. Ça va jusqu'au même au conditional access, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Maintenant, il y a du conditional access en CI/CD aussi qu'on peut faire. Il y a aussi tous les aspects parce que Microsoft est un peu particulier, évidemment, à le comprendre à cause de cette backbone AD et de M365 d'un côté et d'Azure de l'autre. Hein. Attention, on n'est pas dans les mêmes... On parle souvent du mot Azure, mais il est mal galvaudé en tant que nom de produit ou nom de service et non pas comme infrastructure en tant que telle. Donc ça, il faut faire évidemment attention. Mais là où, encore une fois, Microsoft, on ne les attend pas. Puis je parle évidemment de ce que là, pour le coup, je connais le plus parce que c'est ce que je vis depuis pas loin de 5 ans maintenant. C'est le fait est que dans le cloud Azure et par rapport à ce qu'a fait Azure, sans faire exprès. Je le dis bien parce que je crois que c'est sans faire exprès. D'ailleurs, Microsoft, tous ses produits qui cartonnent, c'est soit il n'en parle pas ou soit il n'en fait pas exprès. Et tous les produits où il fait la pub, c'est celles où on ne veut pas y adhérer. Donc, de toute façon, puis qui marche moins bien. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais à date, d'ailleurs, si vous regardez bien, pour faire juste une allusion avant de rebasculer sur Sentinel, c'est que si on regarde Microsoft Defender aujourd'hui, encore une fois, même à l'époque de l'antivirus qui était, je vous rappelle, à l'origine de Defender, qui était même fait en Visual Basic de l'époque, tout le monde disait, bah oui, c'était Kaspersky qui était le meilleur, ou E7, ou ceci ou cela, ou Trend Micro pour les plus anciens, ou même, on pouvait même aller sur du Symantec de l'époque et compagnie, ou bref, il y en a eu des tonnes et des tonnes depuis ces 30 dernières années. Mais ce qui est très drôle, c'est que là, depuis ces quelques dernières années, avec l'intégration de Defender, puis surtout l'intégration avec le cloud, bah désormais, il sort même en premier dans Virus Bulletin, dans des notions de test AV. C'est même lui qui a quand même le vent en poupe à aujourd'hui. Et même des Red Teamers, où je dirais que son prénom, comme Martin, qui précise d'ailleurs à aujourd'hui que même Defender en l'enquiquine sérieusement sur beaucoup de choses, bah je me dis que si ça enquiquine un gars comme ça, puis pour ceux qui écoutent le podcast et qui connaîtra qui je veux dire au nom de Martin, oui Martin, je parle de toi, ça veut dire que par défaut, ça commence à titiller quand même les meilleurs Red Teamers du moment ou de son équipe. Donc, ça sous-entend que Microsoft commence à prendre du poids certain, ou en tout cas, il a fallu du temps, ou il a lui aussi compris. Puis ils investissent énormément depuis ces 5 dernières années dans le Zero Trust, dans le MCSR, là, le Microsoft Security Response, hein, avec Mark Simos et autres. Je vous invite d'ailleurs à taper, si vous voulez, puis là, je le dis au Polysécure, ça permet, mais c'est AKMS. Hein, AKMS, c'est le petit shortcut URL de Microsoft. Donc, aka.ms/, et vous tapez MCRA. Et en tapant MCRA, vous allez tomber sur le Microsoft Reference Architecture Security. Et là, à partir de là, vous allez tomber sur la vraie version, la nouvelle version du MCRA. Vous allez voir tout ce qu'ils font à date. C'est complètement impressionnant et complètement débile. D'ailleurs, on se demande, même sur un seul homme ou sans une équipe, comment on peut le gérer. Mais en tout cas, c'est lui qu'il faut évidemment mettre en avant. Et donc, quand on voit que Cdefender, évidemment, passe, puis de manière d'ailleurs tout à fait sans pub, hein, si vous regardez depuis 2 ans ou 3 ans, Microsoft n'en parle pas plus que ça et dit pas que son Windows Defender est le meilleur du monde. Hein. C'est ceux qui utilisent Azure ou ceux qui ont, en fait, n'utilisent pas Azure, M365 Intune avec le endpoint de Windows Security Center, qui savent qu'effectivement, ça amène évidemment beaucoup plus de choses et des bonnes choses. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que eux-mêmes, quand ils ont décidé de reprendre évidemment tout ce qui était le OSS et le OMS, surtout le OMS, là, le fameux Open Management System, là, un peu comme était le SCCM et le CCMI, tout ça a généré, où ils ont été malins. Au début, ça s'est démarré avec Azure Security Center, donc ASC, pour que d'ailleurs Azure Security Center a été changé comme Azure Security. Là, c'est Cloud Defender maintenant, c'est Azure Cloud Defender désormais pour le nouveau nom. Il faut les suivre. Hein. En 2-3 ans, il y a quand même eu pas mal de guerres qui ont été bougées. Et puis est arrivé évidemment à se dire, ouais, mais nous, avec le Monitor, parce que c'est Azure Monitor qui est quand même en dessous de tout ça, puis ils ont dit, mais encore une fois, hein, le cloud, c'est du Frankenstein de tous les services qui se repositionnent en mode, hein, c'est comme Teams, hein, pour tous ceux qui connaissent Teams, hein, c'est du Wiki, c'est Skype, mais maintenant retourné comme étant Skype Link, mais c'est du RTC que vous avez, c'est hop, tous les connecteurs de tous les outils qu'ils peuvent mettre, comme le Whiteboard, comme SharePoint, comme OneDrive, comme tous les trucs, puis ça, c'est du Frankenstein qui est fait. C'est magique, ça marche tout seul, mais d'un seul coup, tu as tout ça qui se met dans une seule et même application, et ça vous donne votre Teams. C'est pareil pour Power BI, c'est pareil pour Sentinel. C'est-à-dire que quand ils ont vu qu'ils avaient évidemment Azure Monitor, les Workspace Analytics, les Log Analytics, la notion des agents qu'ils allaient faire, les metrics, et qu'ils avaient ce qu'il fallait de toute façon pour rentrer dans les serveurs, autant dans les VM, et que on-premise, puisque c'est des agents, c'est pas du agentless, ils se sont dit, on est complètement fous là, on a un CIEM qui est déjà à notre porte. Pourquoi on n'arriverait pas, en plus avec Azure Security Center qui a démarré 2 ans avant que Sentinel arrive, puisque Azure Security Center, c'est aux alentours de septembre 2018 et début 2018 pour les prémices, septembre 2018 pour vraiment la générale availability, et puis pour évidemment Sentinel, c'est à partir de fin 2019. Et là, on est, ça a fait 2020-2021, en plus la pandémie a géré, et on est début 2022. Il y a eu l'équivalent de 5 mises à jour énormes en Sentinel depuis 2 ans. Et Azure Security Center, c'est sa 5e mise à jour et sa 2e changement de nom. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça bouge très vite, autant du côté back-end que du côté API. Même au niveau API sur Azure Sentinel, là, ça y est, l'API en preview a déjà sa 5e version en moins de 6 mois depuis Ignite. Donc ça, c'est complètement malade. Donc, et une communauté où ils ont été malins, c'est qu'ils ont mis tout ça tout de suite sur GitHub. OK, on n'a pas accès au back-end en tant que tel. Hein, ça, c'est évidemment la propriété de Microsoft. Mais la notion de ce qui se balade dans le back-end, c'est-à-dire les workbooks, les notions de gestion, et on le verra après dans Sentinel comment ça se... Enfin, je vous présente très rapidement ce qu'il en est, mais tout ça, c'est la communauté qui le génère. Donc, ils génèrent les règles template, ils génèrent la notion de connexion avec ce qu'on appelle les fameux workbooks qui génèrent éventuellement des dashboards. Ça génère surtout les connecteurs, on en reparlera juste après, parce que ça, c'est la force de Sentinel. Et puis, ça génère tout le back-end qu'on connaît de Sentinel en tant que tel, c'est-à-dire de tout ce qui est l'analytique. Évidemment, ils n'ont pas été idiots de vouloir intégrer tout de suite la notion threat intelligence, behavior, et j'en passe, c'est des meilleurs, parce que ça aurait été idiot de louper le coche, évidemment, de prendre déjà ce qu'ils avaient. Hein. Je vous rappelle que les fameux, on avait vu ça dans ChaosDB, le fameux Jupyter Notebook, il est déjà intégré d'origine. Ils avaient déjà les Logic Apps. Les Logic Apps, c'est les Automotion pour faire du SOAR. Tiens, SOAR, ça me dit quelque chose aussi. Et donc, on a un CIEM, un SOAR, et on a déjà tous les bouts installés. Donc là où je veux en venir, c'est que voilà, pour créer un CIEM aujourd'hui, comme à l'époque des anciennes versions des années 90, 2000, 2010, il fallait dépenser un data center, un CTI, des gens, des serveurs, mettre en place ces serveurs avec du Windows, du Linux, peu importe ce que vous vouliez, puis gérer aussi la relève, pas la relève, les liens des logs, la protection des lieux, l'électronique, l'électrique, pardon, les liens, évidemment, pour gérer un peu tout ça. C'est simple, ça prenait 8 mois à peu près pour une dépense de 4 à 6 millions de dollars si vous avez de la chance quand vous aviez des tripeux qui arrivaient à faire. C'est cool. Puis ça, vous pouvez me le dire, tous ceux que je connais qui font des socs, et j'ai travaillé avec des gros socs, ça coûte une fortune. Une fortune à maintenir, une fortune à installer et une fortune à gérer. OK ? On se retrouve de bord avec maintenant un cloud public. On sait, on l'a vu dans différentes présentations qu'on a fait au Polysécur, que à date, le cloud public, je vous rappelle, 1,2 milliard pour Microsoft, 1,3 milliard pour AWS par an, contre et pour la sécurité et pour eux. Donc, on sait qu'on utilise de plus en plus le cloud public pour ses propres choses, le IaaS, le PaaS, le SaaS et maintenant tout ce qui est AKS, ACS et compagnie, tout le FaaS, le CaaS aussi, les microservices, les fonctions et compagnie. Et là, on s'aperçoit que tout ça génère que, ben, ils n'ont pas été idiots, Microsoft, ils se sont dit, si on veut aussi amener les gens à protéger et à vérifier, à monitorer ou donc à faire une sorte de sonde pour que le SIM, le Security Information, évidemment, Event Management, oui, je cherchais pour le Event Management, donc le management d'événements de sécurité de l'information, ils avaient tout en place pour pouvoir le faire. Mais tout en place pour pouvoir le faire, pourquoi réinstaller, sachant que c'est pas agentless, donc il faut gérer les agents, donc on peut les gérer avec en plus. Je vous rappelle que Windows 10 met les agents par défaut maintenant avec les versions depuis la 19.03 en service, et c'est selon si vous avez des licences E1, E3 ou E5 qui vous permet de les activer ou pas. Donc, vous n'avez rien à déployer, je vous rappelle. Pas de SSCM bizarre et machin. Vous avez juste à appeler la licence. Le mec se relog. Bingo, les services sont mis en place. Ça y est, vous remontez les logs directement. Vous n'avez plus rien à faire. Donc, c'est là où ça change le mindset au complet. Et là, d'un seul coup, d'un seul, vous arrivez, vous créez un log analytics. Alors, OK, c'est là où ils vont gagner de l'argent. Mais au début, le PSUGO, je vous assure que ça ne coûte pas cher. Parce que tout dépend d'abord, évidemment, des logs que vous bouffez par jour. Mais je veux dire, même une grosse boîte, ça coûte vraiment pas cher. Hein, pour augmenter à au-delà de 10 000 dollars mensuels sur du log analytics, il faut vraiment commencer à en manger vraiment sérieusement. Donc là, vous regardez que vous mettez ça en place avec un log analytics et un workspace, pour ceux qui connaissent, hein, évidemment. Mais puis là, vous dites, bah, je prends Sentinel, qui est un logiciel, comme je vous l'avais expliqué, SQL Server, qui va se brancher sur ce log analytics. Et là, en 6 clics de base, bingo, vous aviez un SIEM qui vous coûtait 6 millions de dollars et 8 mois de boulot. Et en même temps, de toute la maintenance et de l'évolution pour le faire. Si ça, aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle révolution du cloud, puis ça, malheureusement, AWS n'est pas tombé là-dedans. Oui, il y a CloudWatch, oui, il y a Security, il y a toute la partie GuardDuty et puis Security Hub. Mais tout ça génère que des logs raw. Ils n'ont pas généré, parce que c'est sûrement pas le boulot d'AWS, c'est sûr, là-dessus, il a décidé. Ils sont très forts sur d'autres choses. Mais sur cette partie-là, ils ont décidé que c'était les tiers qui devaient faire le boulot. Ils ont accès à une certaine chose qui vérifie, là. Mais après, le reste, vous donnez des super dashboards. Ça, c'est Microsoft qui sait le faire, hein. On connaît Microsoft quand ça fait pas, évidemment, des papa-maman avec des beaux dashboards comme à la Windows. C'est pas beau. Mais bon, je vous rassure, ça se positionne en CLI aussi bien. Mais c'est par là, c'est leur marque de fabrique, c'est ça. Et en même temps, c'est aussi leur marque de fabrique de ça rentrait dans leur système à eux du fameux MSCR, donc du Microsoft Center Response, parce que c'est eux aussi qui l'utilisent pour eux-mêmes. Et il faut comprendre que Microsoft à 70% est géré aussi avec le papa ou le balbutiement qui est maintenant aussi Sentinel pour eux-mêmes. Ça va de soi, puisqu'ils ont évidemment tout le cloud des je ne sais plus combien de millions de domaines, ils ont 2 millions de sous-domaines dans la AD et ils ont, je vous rappelle, 64 data centers à protéger au travers de tous leurs clients et d'eux-mêmes en plus. Donc, ils n'ont pas le choix de passer aussi par là et d'avoir de l'intelligence parce que même eux, ils arrivent, même si c'est une grosse boîte, même s'ils sont 150 000, je crois, oui, même plus que ça d'ailleurs, je ne suis pas certain que tout le monde peut évidemment garder 500 yeux derrière, évidemment, les points. Donc, tout ça a amené évidemment à dire que si on se pose la question, puis là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais le côté de F5, de Checkpoint, de tout ce qu'on connaît de Microfocus et compagnie, donc ArcSight et autres, ou même QRadar d'IBM, bah, quand on commence à regarder toutes ces affaires-là, puis de dire, bah ouais, mais là, il faut que je rachète du matériel, ouais, c'est du PowerJet Dell, ouais, super, sympa, ça m'a coûté encore une beurrée, faut que je me les mette à jour tous les 5 ans, ok, donc ça rentre en investissement, puis il faut que je recommence. Ah oui, puis il faut que je l'installe. Donc, si je l'installe, il faut que je me retrouve des gens qui soient capables d'installer tout ça, qui soient capables de faire papa-maman avec le réseau, tout ça, de mettre en plus les BGP, de mettre les réseaux, la périmétrie, et j'en passe. Il faut que je fasse en plus une sectorisation de bah, qui a le droit d'y aller. Est-ce que je dois faire, je ne sais pas moi, biométrique, photocopie des fesses, est-ce que je dois éventuellement gérer trois fois les logins comme à la NSA? Enfin bon, tu sais, c'est là où à partir de là, tu te dis, ouais, mais là, tu as déjà tout dans ton AD, tu as déjà tout en hybride, tu as déjà tout. Tous ceux qui nous écoutent sont des moyennes entreprises ou des grosses entreprises ou éventuellement du gouvernement. Vous êtes déjà presque à 90% sur de l'AD. Vous êtes déjà en mode ADFS ou en mode AD Connect selon les principes et vous êtes déjà avec du on-premise ou pour pire, vous avez éventuellement, et ça, ce serait un crime pour vous parce que vous auriez éventuellement une E3 ou une E5 en version de licence et que vous les auriez achetées. Vous êtes built-in avec Defender et vous êtes built-in avec le MMA. Le MMA ou le AMA, qui sont les deux agents qui sont maintenant built-in dans Windows 10 de 19.03 jusqu'à Windows 11 maintenant à aujourd'hui. Et même Windows 2016 serveur dans les dernières updates. Et depuis lors, 2019 et 2022 en termes de serveur. Et là derrière, on vous dit, coucou, tu cliques 6 fois et t'as un SIEM officiel, t'as plus qu'à mettre les data connecteurs en place. Moi, écoutez les gars, encore une fois, je suis un aficionado de jamais refaire la même chose deux fois. Je suis un aficionado du cloud native en disant, est-ce que j'ai envie de me faire chier de refaire une putain de bécane qui va, ou des CTI ou des machines en redondance et avec de la relève, avec des gestions de je ne sais quoi, avec de l'électrique, sachant que tout ça, c'est Microsoft qui doit gérer. Alors, vous allez me dire, oui, mais si tu redonnes le log, ça, je l'entends, mais ça, on l'a déjà entendu pour l'AD, on l'a déjà entendu pour le truc on-premise. Ah oui, mais si ça pète, ça fait quoi? Ben, c'est les logs qui rentrent pas, mais c'est pas pour plus que t'es pas plus protégé non plus. Puis je me doute aussi que si Microsoft peut pas te donner les logs, ben, t'as deux choses. C'est soit que Poutine a été plus loin qu'il l'est aujourd'hui, ou soit éventuellement t'as les extraterrestres qui ont descendu, ou soit Microsoft est assez con d'avoir enlevé sa manne, où Azure Sentinel a aujourd'hui casse la baraque partout sur la planète et un des produits qui rapporte le plus à date. Donc, tu sais, je vois pas l'intérêt d'une société qui fait ce genre de choses, sachant que c'est tes propres logs de tes propres services qui travaillent dans ton propre cloud, qui fait que déjà t'as mis ton propre cloud, donc t'aurais du cloud, mais tu mettrais ton monitoring à l'extérieur. Encore une fois, là, vous avez un fail dès le départ d'entrée de jeu si vous faites ce genre de choses. C'est un petit peu comme le côté d'arracher l'AD en mettant en AD pur. Bah oui, messieurs, dames, même si ça passe par les États-Unis, de toute façon, ça passe déjà par les États-Unis avec l'AD Connect. Donc, par défaut, c'est ça qui fait que, alors je veux pas de mal par ArcSight ou Curadar ou quoi que ce soit, mais même je vais même vous dire un truc encore plus. Et puis ceux qui ont accès à Azure pourront le voir. Tapez le portail Azure, allez sur Marketplace, puis sur le Marketplace, tapez F5, ArcSight, appelez Curadar, et ils vous donnent la possibilité d'installer en IaaS le Curadar, parce que des fois, il y a aussi de la notion de migration, je me doute, hein, après de déconnecter du on-premise et autres, c'est souvent plutôt bah, mettez votre cloud déjà dans le SIEM, puis au fur et à mesure que ça décommissionne, bah, c'est du lift and shift ou du lift and refactor, puis vous faites comme pour le développement, puis vous faites vous le prenez pas à grosse bouchée, vous le prenez à petite bouchée, c'est comme les éléphants, on dit toujours une cuillère à la fois, bah, là, c'est pareil, c'est on va le prendre une cuillère à la fois, puis on va le gérer. Mais l'autre débat important, c'est de dire en même temps, ces gens-là ont déjà une création de leur propre appliance physique dans le marketplace d'Azure. Pour que la transition dise, ah bah, si vous voulez pas de CTI, vous pouvez quand même utiliser ArcSight, Curadar et ainsi de suite dans le marketplace. Bah, attendez les gars, faut savoir. Vous me dites que vous êtes pas cloud, mais en même temps, on peut l'utiliser dans le marketplace. Bah, alors pourquoi je me remettrais un IaaS en même temps si en même temps, là, c'est sûr que Microsoft est un petit peu... Alors après, est-ce qu'il fait tout ce que vous attendez et autres? On pourra en reparler juste un peu après. Puis j'invite à dire que c'est peut-être pas un spoil pour la suite, mais il y aura peut-être une deuxième émission sur la suite de Logic. Je ne sais pas si pendant tout le temps, là, on pourra évidemment tout passer ou toutes les idées, mais je pense qu'il y aura sûrement un deuxième épisode pour la suite. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que par défaut, si vous êtes en plus dans Azure, puis je vous rappelle qu'en plus, les connecteurs maintenant pour Azure Security Center, donc Cloud Defender, ils vous offrent des connecteurs pour GCP et ils vous offrent des connecteurs pour AWS. Donc, si vous mangez les logs de ces connecteurs-là qui eux-mêmes mangent les logs de votre AWS ou de votre GCP, vous les remangez directement dans votre SIEM. Alors après, on va me dire, bah oui, mais je veux un spin of glass pour avoir la totale. Donc, c'est pour ça que j'utilise, par exemple, Fortinet ou Fortisor. Ouais, mais Fortisor, lui aussi, il va bien falloir qu'il mange. Il mange où? Alors, il mange dans les rows de tes logs ou il va manger dans Sentinel? Alors, donc, tu vas utiliser un SIEM pour aller manger un autre SIEM. Ça va commencer à être compliqué, là. Donc, il va falloir que tu t'auto-adaptes du mouvement du SIEM de Sentinel qui, lui, bouge tous les jours ou en tout cas bien régulièrement dans toutes les semaines pour que toi, tu le fasses. Ou alors, tu vas me dire, non, je vais manger mes logs en RAW, donc en RAW, en mode binaire. Puis, c'est toi qui vas te taper tout le boulot que la communauté de Sentinel à date est en train de te faire au niveau des templates, des rules, des notions, évidemment, qui vont gérer, on va dire, entre guillemets, le côté intelligence, behavior et de toute la machine learning qu'offrent évidemment des sociétés comme Microsoft et AWS. Comment préciser à aujourd'hui de ne pas voir le SIEM nouvelle génération dans un SIEM cloud? Donc, c'est là où... je ne sais pas si je vais me faire beaucoup de copains avec évidemment ce podcast-là, mais à aujourd'hui, je me poserai sérieusement la question à date pour dire que je vous rappelle à aujourd'hui, puis là je suis devant mon propre Azure Sentinel de quelqu'un, il y a 122 connecteurs qui existent à date. Quand Sentinel est sorti, en première génération, il était à 66 connecteurs. On est 2 ans plus tard, il est à 122 connecteurs. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a comme connecteur? Les Microsoft font très, très peu. C'est les clouds par défaut. Donc, il y en a quoi? 26, 27. Tout le reste. Donc, ça veut dire que plus de 90 connecteurs correspond à des connexions qui sont des connexions d'outils extérieurs. Donc, ça va de, il y a même des outils que je connais pas, comme Acklid, Acklid Audit, Akamai, AL Vectra Detect. Là, un des derniers en date, c'était AI Analyse DarkTrace, Agari aussi pour le phishing. Je peux vous donner qu'il y a du Barracuda, il y a du Better Mobile. On tape maintenant sur du Better Mobile Threat Defense. Il y a du connecteur pour du Beyond quand on va faire du MAM ou du MDM sur des devices mobiles. Le connecteur est déjà là. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais moi aussi, j'ai mes connecteurs on-premise. Ah oui, oui, mais là, les connecteurs, ils sont déjà faits. Donc, ils arrivent avec les connecteurs, ils arrivent avec les rules, ils arrivent avec les rules template et ils arrivent déjà avec tes workbooks et tes dashboards. Quand tu fais le clic et le temps que l'ingestion se passe où certains connecteurs vont prendre entre 1 heure et 24 heures, le lendemain matin, si tu comptes 24 heures en gros, tu es déjà opérationnel. Tu as fait 6 clics. Enfin, je veux dire, c'est là où ça commence à devenir compliqué de justifier. C'est là où tu peux enfin dire ton triage. T'as tes analytiques que tu vas pouvoir gérer, t'as ton Mitre, ils viennent de gérer Mitre en plus derrière, là ça y est, Mitre en back-end vient d'être mis en place. Donc ça veut dire que quand tu as fait directement tes analytiques et que ça rentre dans tes incidents, tu as ton Mitre que tu peux gérer aussi et ils voient comment t'as géré tes alertes, comment tu le fais. T'as tes watchlist, parce qu'ils gèrent les watchlist avec évidemment le côté IPO, l'automotion, le Logicap, ça arrive dedans. Donc c'est tous ces aspects-là que CyberArk, Citrix, les i7 Enterprise Inspector aussi, si t'es i7, F5, 4Point DLP, tous les DLP, les Impreva, les Jupiter, qui ont été faits. Il y a aussi Jupyter Notebook qui est aussi logué. Les Nginx, tous les Nginx log en l'occurrence. Et puis, pour finir, t'as tout ce qui est Orca Security Alert. Orca Security Alert, c'est comme Wiz que je vous ai parlé dans les fameux trifecta des 3 bugs fail. Orca Security, c'est une des boîtes qui trouve les pires sécurités, enfin les trous de sécurité dans le cloud et spécialement dans Azure. Ils sont déjà intégrés en tant que connecteur pour que tu puisses peut-être de dire « Ouh, fais attention, tu as des issues là-dessus, tu n'as pas sauvé ce truc. » C'est un peu comme Azure Security Center, mais en plus de Azure Security Center. Alors évidemment, tout ça n'est pas gratuit, mais quand je fais le calcul du temps entre tout ce qu'on vient de dire pour le CTI, entre le temps des gens, la maintenance, la mise à jour, l'intelligence en plus qui est derrière, qui doit être faite en plus pour le maintenir. Là, c'est géré par une communauté dans GitHub où je vous rappelle que c'est l'équivalent de 340 branches différentes et l'équivalent de 4000 bonhommes qui bossent toutes les semaines au-delà de ceux de Microsoft. T'as Microsoft qui le gère pour lui-même et t'as la machine learning derrière. ça commence à devenir compliqué de me dire, écoutez, moi, mon Siem, non, je le fais à la main, j'aime bien être artisan, moi, ça me fait plaisir, j'achète mon petit produit sympathique au coin du dépanneur, petit dépanneur du coin, j'aime bien, moi, mettre mes petits PC à jour, ça me fait perdre pas de temps, en plus, bah, comme ça me double mes équipes, parce que j'ai une équipe TI qui discute pas avec mon équipe DevOps, et encore moins avec mon équipe de sécurité. Non, mais vous imaginez, là, vous l'avez directement. Donc, c'est pour ça que je voulais amener le fait est de dire, Sentinel, aujourd'hui, va changer, quoi qu'on en dise, la face du monde de la sécurité des événements, surtout quand on est vraiment full Microsoft, quoi qu'on en dise aussi. Les coûts, quand ils sont bien gérés, en plus, ils ont fait des dashboards pour les caustes et les injections, comment vous le gérez. Je n'ai pas dit que tout n'était pas gratuit et qu'il ne fallait pas non plus avoir son Azure P2 ou son ADP2 ou son ADP1 ou quelques, comme on l'a dit tout à l'heure, le côté des E1, E3, E5 quand on est gouvernemental ou des grosses sociétés, c'est assez rare d'être autrement de toute façon puisqu'on a quand même un parc informatique adéquat. Je ne dis pas le contraire, c'est pas dédié non plus pour la petite PME évidemment de 100 personnes, hein, je me doute, mais elle a pas de CIEM non plus spécialement, a d'autres choses à faire, je pense pas. Donc encore une fois, ça se gère pas à la personne entre 100 et 500 personnes, tu sais. Ils gèrent souvent leur sécurité à la mimine et à gérer plutôt leurs produits et de vérifier que leur firewall fonctionne, puis ça s'arrête là, avec tout après la configuration évidemment que ça génère. Mais bon, vous comprenez que automatiquement, quand on regarde la partie de sécurité au niveau du Defender for Endpoint, Microsoft Cloud App Security, Azure WAF, Azure Sentinel, Azure MFA, Defender for Office, Microsoft Security Graph, Azure Privilege Identity pour les PIM, Azure DDoS, Defender Office 365, évidemment, derrière Azure Key Vault, Azure Logic App, Defender for Identity, Azure AD IP Identity, le fameux AD IP, et le Azure Backup, tout ça revient dans Sentinel. Au secours! Pourquoi j'irais me faire chier à aller le plugger avec quelqu'un d'autre? Vous gagnez du temps, mais c'est même pas une usop, et de l'argent. Vous faites que vos gens vont plus faire du triage et faire de la sécurité pour être bêtes, ils vont faire de la sécurité pour faire de l'analyse. Je vous rappelle qu'on dit pas du monitoring, maintenant on dit du threat hunting. Qu'est-ce qui est contre quoi je veux me défendre? C'est quoi mes assets? C'est quoi mon surface d'attaque? C'est quoi que je veux défendre? Oh, ben monsieur, j'ai rien en internet facing. Bon, ben, SurveyPot et DNS, si tout est à l'interne, fais autre chose. Ah oui, mais par contre, j'ai peut-être des gens à l'extérieur avec des problèmes de mots de passe. Bon, ben, t'as tout l'identity protection. T'as tes systèmes de conditional access, t'as tes systèmes de risk signing et compagnie, t'as tes PIM. Ah bah oui, je travaille qu'avec des consultants. Ah bah je veux qu'ils se PIM à chaque fois. Ah bah si t'as tes PIM, surveille tes PIM, surpaye ta config de haute privilège, puis dès que quelqu'un veut du global admin, ça te fait du SOR de partout, puis là ça t'envoie des SMS de partout en te disant est-ce que c'est normal, est-ce que c'est OK, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est... Ça change la politique aussi de qu'est-ce qu'on veut surveiller. Des fois on veut même surveiller des configurations, pas spécialement de surveiller des black box, parce que taper du black box, je vous rappelle encore, dans du cloud, c'est assez compliqué, c'est toujours du black box parce que c'est une mauvaise configuration d'origine, parce que par défaut, des fois, bon, les gens n'ont pas relu la doc et ils n'ont pas changé les choses, bon, ok, ou on laisse évidemment des flottants, comme on les appelle, c'est le nouveau super mot à la mode, des services ou des ressources flottantes et qui n'ont pas été attachés avec un réseau ou un VNet ou un firewall ou quoi que ce soit qui existe aussi dans le monde du service ou du IaaS en tant que tel. Mais vous imaginez que toutes vos bases de données SQL, Azure Sentinel est dedans. Tout ce qui est Postgres, Azure Sentinel est dedans. Donc, c'est toute une autre manière, encore une fois, comme c'est une autre manière de développer avec du cloud, c'est une autre manière de développer avec du service, c'est une autre manière de voir CVM avec du point. Bah, la notion du CIEM, et je vous rappelle que les domaines sont énormes, parce que les domaines d'un CIEM, normalement, c'est du Endpoint Protection, c'est du Class Access, donc c'est le CASB, c'est le WAF, c'est le MFA, le DLP. Il y a aussi éventuellement des PAM. Bon, maintenant, avec les bastions presque en service des clouds, c'est pas la peine, mais en tout cas, c'est là. C'est aussi pour tous ceux qui sont intégrés à Office 365. Bah, c'est de gérer le phishing, c'est de gérer tous les malwares, les fameux TrickURL ou les notions de click, les notions de forwarding et compagnie. C'est évidemment le UEBA, le nouveau buzzword super à la mode, qui est le User Entity Behavior Analysis. Puis là, j'ai voulu me le noter pour pas avoir d'erreur dans mon anglais. Je vous rappelle qu'il y a le Dark Web Monitoring aussi à gérer, parce que en même temps, là où est très fort Sentinel, c'est qu'OK, il y a les connecteurs, les data connecteurs sont évidemment branchés. OK, on a les analytics ou les rules, donc ce qu'ils appellent les règles, sont mis en place. Je vous rappelle que les règles, Microsoft suit les bonnes pratiques, il est partout dans les bonnes pratiques de toutes les boîtes inimaginables de Security, CSA, Alliance, de tout ce que vous voulez. Il est même un des gros porteurs de Mitre, hein. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est quand même lui qui file le plus de pognon possible. Donc, à défaut, il faut comprendre que en plus, vos systèmes de rules sont mis avec les tactiques. Donc, le fameux TTP, là, le tactique, technique, procédure, bah là, les notions de dire est-ce que c'est de la persistance, est-ce que c'est du initial access, est-ce que c'est de la recon, vous les avez directement déjà intégrés dans les templates, ils vous les mettent, donc ils vous expliquent ce qu'il en est. Alors, j'ai pas dit que c'était simple parce que derrière, comme partout avec Microsoft, il y a du KQL, il y a une notion de gestion, il y a quel log, quelle table, comment ça se génère, mais est-ce qu'on pourrait faire du cross-tenant, du cross-subscription, et j'en passe, et j'en passe. Mais même là, on pourrait me dire aussi, ouais, mais moi, j'ai un managed services. Donc, quand je fais du managed services, bah, ça colle pas à moi parce que moi, je veux un spin of glass où je pourrais aller lire avec des API de le faire. Non, c'est faux. Microsoft a mis Lighthouse derrière en place. Donc, avec Lighthouse en place, t'es délégué, t'as un NPM, donc, c'est-à-dire, t'as un numéro de partenaire Microsoft. Donc, t'as même pas besoin d'être à l'intégré de l'AD. Il te délègue tes ressources et automatiquement, bah, ton workspace, tu vas dire que le workspace des logs va aller retaper via toi le tien en tant que tel avec Lighthouse et automatiquement, tu as ton SIEM en pane of glass où tu peux avoir des multi-clients qui fait qu'évidemment, tu ne mets pas tous tes clients dans mes workspaces. Hein, je précise à le dire au travers, hein, chaque workspace avec un client, s'il vous plaît, c'est la norme ISO 27001. Hein, on coupe les systèmes by design au travers des clients, mais ça se fait. Je veux dire, si en plus, ils ont fait Arc derrière, je vous invite à aller voir Azure Arc. D'ailleurs, je lance un petit spoil. Comme ça, éventuellement, Nicolas me le dira. Si un de ces quatre voulait un petit podcast sur Azure Arc, ça me ferait plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas si longtemps et que ça peut éventuellement aider sur pas mal de gouvernance on-premise et autres, comme PureView d'ailleurs, Azure PureView, qui est la nouvelle coqueluche d'Azure qu'ils n'en parlent pas au niveau de Microsoft. Je vous invite à aller voir. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel et incroyable. Mais tous les autres produits, et là, je vais vous en citer quelques-uns, vous allez évidemment rigoler en disant que les other cloud security products comme SentinelOne, CrowdStrike, Carbon Black, Symantec EDR, Trend Micro, ForcePoint KSB, Imperva WAF, Barracuda, ForPoint, Recode Future, évidemment Varonis, Rapid7, Palo Alto, Symantec, Zscaler et Cisco, et puis je vais en dire un autre gros, Common Vault. Tout cela a une petite case à cocher. Ils sont des Data Connector Availability dans Sentinel. Donc, en plus, ça ne vous empêche pas de dire, je peux bousculer mon SIEM en disant, bah, je le décommissionne avec le temps, mais en reprenant évidemment des connexions qui peuvent être faites des autres produits, vous ne perdez pas le passif ou le legacy le temps que ça se fasse, parce que ces connecteurs existent. Vous pouvez même le mettre en marketplace le temps que vous faites votre migration aussi, puisque ça pourrait exister aussi en main cloud, hein, ce qu'on appelle les fameuses appliances virtuelles, les NVA. Et là, à partir de là, vous pouvez le récupérer dans Sentinel automatiquement aussi. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que là, Sentinel, il y a vraiment de la grosse difficulté aujourd'hui. Et pourtant, je suis dans ce monde SIEM depuis, enfin, dans le monde de la sécurité depuis 30 ans, mais dans le monde SIEM depuis 5 ans. Honnêtement, je l'ai appris à la dure parce que je l'ai appris avec les plus gros socs et avec les points. Mais quand je regarde ce qui a été existant avant, donc j'ai pas d'a priori, moi, sur les, autant que je pourrais l'avoir sur du malware, du reverse engineering et sur éventuellement tout ce qui se passe dans le développement ou dans le cloud lui-même. Mais moi, j'avais pas d'a priori sur les autres produits parce que je les ai juste travaillés pour faire du passation sur du cloud. Mais le passation sur du cloud aujourd'hui, quand je regarde les autres produits et que je les teste, même avec, et pourtant, Dieu sait que j'ai même un ami là-dedans qui est sur Palo Alto, avec que ça soit Cortex ou que ça soit Prisma et compagnie. Oui, mais ils sont bons parce qu'ils font du multi-cloud eux aussi au travers d'AWS. Mais honnêtement, Sentinel n'a pas du tout à rougir. Et là, je le dis haut et fort, même si je suis encore un bébé Microsoft là-dessus. Mais vraiment, là, à date, il a tout parce qu'il est intégré. Alors, c'est sûr que ça se donne à 90% pour des gens de chez Microsoft. Enfin, quand je dis des gens, c'est les clients Microsoft bout à bout. C'est sûr que là, il n'y a même pas besoin de se questions à se poser. Mais pour les autres qui sont 50-50, pour certains qui se posent des questions, je vais même vous dire, il y a même des gars qui étaient et qui sont pro AWS que je connais, qui pour des raisons de SIEM sont basculés sur Azure pour récupérer tout leur asset de log d'AWS avec Security Hub ou GuardDuty ou autre, pour récupérer la logique des logs et reprendre tous ces logs-là pour les récupérer dans Sentinel. Donc, c'est là le changement de vision, en fait, du fameux CIEM 3.0, si je peux l'appeler ainsi, puisque le 2.0 était la notion du marketplace tel qu'on peut l'avoir dans le NVM. On avait des appliances physiques, on avait des appliances virtuelles. Maintenant, on a du cloud services, service, CIEM, SaaS, tel qu'on l'entend, parce que c'est ça, c'est du PaaS, c'est du SaaS. Moi, à date, à mon avis, à part qu'il y aura évidemment d'autres concurrents qui vont se faire. QRadar se met déjà dans le cloud. Il y a évidemment des gens qui mettent leur CIEM dans le cloud, mais ils ont pris du retard parce que c'est pas leur métier en plus principal. Là, on a aussi une boîte de développement qui fait que du développement à tous les jours. Donc, c'est compliqué, encore une fois, comme le YAC et compagnie, où il y a des gens qui ont un petit peu raté le train en marche. Et AWS ne l'a pas vu venir. Je pense que si AWS l'avait vu venir, il aurait peut-être fait le truc. C'est pour ça qu'il met en avant éventuellement tous ses tiers à date. Palo Alto en premier, pour ne pas le citer, mais je pense que c'est ça. Mais McAfee, c'est un des premiers à avoir fait les connecteurs. D'ailleurs, tous les connecteurs principaux qui ont été faits au début, c'est Checkpoint, McAfee, F5, Symantec, qui ont été les premiers à être connecteurs à Sentinel parce qu'ils savaient que dès le départ, ils auraient le gain à y être pour justement faire cette passation à ce niveau-là. Donc, pour vous finir en même temps, puis comme ça, ça nous prendra vraiment une deuxième étape parce que j'avais tout l'autre aspect technique vraiment intégrante au niveau de l'automotion, des settings, de l'entity behavior que je vais pouvoir vous parler, de l'hunting aussi parce qu'ils font de l'hunting en temps réel. Et ça, c'est important aussi de vous en parler. Mais l'autre point que je veux finir, c'est que maintenant, ils ont intégré dans la dernière version le content management avec évidemment la partie du content hub. Et le Content Hub, voyez ça comme un marketplace qui n'est pas les data connecteurs. Les data connecteurs, vous avez une partie commande le faire. Et là, ça veut dire que vous mettez un API et un mapping entre votre connexion de vos outils ou du log vers, évidemment, le Sentinel. Mais le Content Hub, c'est de dire non, on vous met des solutions. Donc, c'est le terme vraiment utilisé, solution. Voyez ça comme étant un plugin. Moi, je préfère le dire le plugin puisque je vous ai dit que c'était un SQL serveur. Donc, c'est comme si vous mettiez un plugin dans votre SQL ou vous voyez Sentinel comme Notepad++, puis vous mettez un gros truc, puis vous ouvrez un fichier ouvrir pour Log Analytics, puis le plugin va faire le reste à côté. Donc, là, c'est pour faire de l'analogie rapide, mais c'est pour comprendre que en podcast, on ne voit pas l'écran que vous avez en face. Donc, vous avez 113 solutions à date qui est fait. Puis là, pourquoi je vais le dire, puis ça va lui faire plaisir. Tiens, Nicolas, tu pourras le rappeler pour lui dire qu'on a parlé de lui là-dessus. C'est Mathieu Lavoie pour Flare System, qui est un ancien gars qui a bossé dans une boîte bancaire verte, que je dirais pas le nom, mais au moins, j'ai juste dit la couleur, qui a monté, évidemment, un système sur le dark web et pour gérer toute l'identité sur le dark web. Flare est là-dedans. Flare, puis je dis Flare parce qu'il y en a d'autres que je connais qui sont mis là-dedans, il a créé une solution pour être directement dans Sentinel et dire, on va manger vos affaires, évidemment, au travers de Sentinel pour savoir que nous, notre API va aller faire le boulot, mais entre Sentinel et notre API, pour aller vous remonter les informations pour dire, oh, dites donc, votre VP, il a été leaké à tel endroit, le dark web parle de lui à telle identité, de tel truc, on a vu telle affaire dans tel GitHub, ou dans tel GitLab, ou dans telle affaire. Mais là, s'imaginer, il y a du Armorbox, il y a du Teams, il y a du Azure DevOps, il y a du Ataslan Jira, il y a pour Box, il y a évidemment pour Azure Firewall, il y a les sessions pour tout ce qui est les Cisco, Cisco ACI, Cisco Duo Security, Cisco ISE, il y a les Cisco Meraki aussi. Vous avez des solutions pour Cloudflare. Donc, Cloudflare est intégré directement à se faire manger. Cloudflare, c'est mon outil préféré. Ça aussi, un de ces quatre, il faudra qu'on en parle. Cloudflare, tout le monde devrait être Cloudflare, pour le coup. Mais le Cloudflare, là, automatiquement, il vous génère, si vous avez votre DNS directement, pire encore, si vous avez la zone DNS à l'intérieur de votre Azure en DNS zone, là, Cloudflare, c'est une solution qui se retrouve dans Sentinel et qui vient d'être mangée à ce niveau-là. Donc, écoutez, honnêtement, si vous n'avez pas, ou en tout cas ceux qui étaient convaincus, tant mieux, j'espère que je vous ai encore satisfait de vous convaincre à utiliser évidemment ce produit, mais et service, mais pour ceux qui avaient encore éventuellement des doutes, allez voir, ou en tout cas renseignez-vous, allez lire vraiment les choses à ce niveau-là. Repositionnez-vous et reposez-vous la question, est-ce que ça vaut encore le coup que je me rembrote avec des data centers, des machines, des gens, des TI, des 8 mois d'investissement de je ne sais pas de combien de réunions pour que ça clash à des endroits et que ça passe pas et avec tout ce que je dois faire. Posez-vous la question, si vous êtes au-delà de 60% dans le cloud, passez-vous un CIEM cloud. Même à 50-50, d'ailleurs, ça vaut quand même le coup, mais bon. Puis si vous êtes de toute façon bébé Microsoft, genre, et quand je dis ça, c'est que vous avez ADFS, un AD on-premise, AD joining, voire même des Intunes ou peu importe, autopilot qui a été déployé et que vous avez éventuellement des licences adéquates, rachetez pas autre chose. Vous payez déjà plein pot avec les licences E3, E5, mais faites-vous plaisir. Mettez-vous ça en activité, mettez Sentinel et regardez ce que ça donne. Moi, je peux vous assurer qu'à date, on le vit que très peu dans une carrière, mais ça m'a permis sur deux clients, bon, avec des clients, j'ai des NDA, mais d'avoir évité, ou en tout cas d'avoir vu des exfiltrations faites, et donc des attaques qui étaient déjà présentes dans leur système et qu'on a pu contourner pour l'un 3 semaines après l'effet et pour un autre 2 mois après l'effet, et sur différents endpoints et différents systèmes services, évidemment en clair, ben, je peux vous dire que là, depuis, dites-leur qu'ils veulent enlever Sentinel ou dites-leur qu'ils veulent enlever tout ce qu'on a installé, je peux vous dire qu'il n'y a même plus... C'est net et précis, je veux dire. Et c'est pas parce que c'est Sentinel, mais c'est parce que c'était intégré en tant que tel, ça, je veux dire. Ça a sauté aux yeux au moment où on fait les bonnes pratiques et les bonnes choses et qu'on connecte les bonnes choses, bah ping, parce que c'est évidemment fait built-in. C'est comme si qu'on me disait qu'on prenait une Porsche, mais on allait évidemment rouler dans du sable. C'est pas tout à fait fait pour, hein, ou les voitures où on a l'arrivée d'air au niveau du toit, bah ça, c'est pour évidemment faire du 4x4 dans les rivières parce que l'arrivée d'air va pas être évidemment dans le moteur. Si vous faites ça avec une voiture normale, ça va évidemment couler le moteur. C'est exactement la même chose pour le système informatique. Donc, oui, ça fait mal. Oui, c'est des changements de politique. Oui, c'est des systèmes de changement, comme on appelle. Oui, c'est encore une fois de repenser d'une autre manière out of box. Il y en a des fois qui sont fatigués de ça. Je le comprends. Ce n'est pas une critique. Des fois, il faut peut-être changer de métier ou faire autre chose. Mais je veux dire que par défaut, ce n'est pas une critique. Mais c'est la notion où si vous voulez être sécurisé correctement et utiliser le bon système, bah là, moi, pour moi, je ne vois pas autrement de je le vis, hein. Honnêtement, il a été installé dans des très, 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 et malheureusement pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous dire, mais dans des très grosses boîtes et des très gros gouvernements et des très grosses boîtes au niveau canadien. J'ai eu la chance d'en bosser au moins avec une grosse dizaine depuis ces 5 dernières années. Je vois l'efficacité que ça a fait. Je vois une de ces grosses boîtes qui est très connue, qui a aujourd'hui été attaquée de toutes parts parce que c'est une boîte... en haut de la liste de celles qu'il faut attaquer dans un monde comme au Canada et dans un monde comme au Québec, bah, je peux vous assurer que si elle avait pas Sentinel derrière, ça foutrait un petit peu misère à la dame. Donc, non, honnêtement, c'est à prendre en considération désormais. Et si au moins je peux vous passer un message ce soir, c'est prenez le temps, en tout cas, de le faire. Ceux qui n'y étaient qu'à moitié, bah, foncez, faites et revoyez un petit peu les points. On verra un peu plus de technique dans le deuxième épisode sur certains points et vous verrez qu'on rentrera un petit peu dans le vif du sujet sur des points un peu précis. D'ailleurs, un truc que j'ai fait là justement pour une entreprise qui va sûrement vous intéresser, que je pourrais vous expliquer, mais en même temps, de l'autre côté, de vérifier que bah, vous avez tous les autres gros joueurs de toute façon qui, bah, même si pour certains vont perdre leur CIEM, ils vont vous apporter une autre valeur. Ils vont vous apporter du threat intelligence, ils vont vous apporter de la mémoire, ils vont vous apporter... leur IP, leur recherche de l'autre côté. Vous inquiétez pas, ils sont en train de se réinventer pour certains, ou en tout cas pour ceux qui avaient aussi un peu un CIEM direct. Donc, c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est est-ce qu'on veut réellement changer et passer en cloud native? Moi, pour moi, en 2022, le 11 mars, c'est ce que je prendrai pour la fin de ce premier épisode, mon Nicolas.
Absolument, mais de toute façon, oui, il faut passer en cloud, puis ça change beaucoup la réflexion sur les choses. On va remettre ça pour le deuxième épisode, puis sur ça, de toute façon, nous autres, c'est un vendredi, si tu l'as dit, c'est le 11 mars, donc bon week-end.
Oui, exact. Bon week-end.
Prenez oui, c'est un petit verre d'eau pour passer à travers l'épisode.
C'est indatable. Je ne vais pas, évidemment, la prochaine fois, je ferai attention. Ça y est, je me suis trahi en sécurité pour mon pauvre Nicolas sur une date. Excusez-moi, c'est de ma faute, ça ne se reproduira pas.
Ça vous facilite les hostings.
Ouais, c'est ça. Faut le OSINT. On évite le OSINT. Bah, tiens, en parlant de OSINT, Sentinel est très bon aussi sur ce sujet, parce qu'ils ont des, comme je vous disais, des watchlists, mais même sur des solutions, ils ont des content hubs sur les OSINT qui existent, comme Belgicat, par exemple, ou comme des sociétés qui ont mis des toolkits d'investigation sur les réseaux sociaux. Bah, là aussi, ils sont évidemment pas idiots. Puis, je vous rappelle aussi pour finir que la démocratisation de la machine learning, Microsoft fonctionne à fond les ballons sur évidemment Jupyter Notebook. Hein, donc Évidemment, tout passe en machine learning à eux et tout peut passer en machine learning à vous. Donc, vous imaginez l'impact que ça peut avoir pour éventuellement se faire des statistiques ou des idées. Donc, écoute, ça a été encore un grand plaisir. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir enduré pendant une heure, les amis. Et je vous souhaite à une prochaine pour l'épisode 2, en tout cas. À bientôt.
Merci.